Attention, l'œuvre que vous allez entendre est immorale et peut choquer les personnes de tout âge. Nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, La spirale de verre. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Elle lui sourit et lui dit « Il est vrai que tu es vraiment mignon. » Alors, nous verrons. Le chauffeur qui les entend se dit « Elle n'a pas froid aux yeux, la fille. Ni lui, d'ailleurs. » Il va s'arrêter devant l'immeuble des parents d'Éric. Il lui dit « Ciao » et sort du taxi. Elle se dit « Se comporte malgré tout comme un gosse. » En tout cas, son côté violent ne cache pas sa timidité, mais de l'assurance. Éric va sonner chez ses grands-parents. C'est la bonne qui lui a ouvert. Bonjour monsieur, bonjour. Il entre, elle ferme la porte. Elle lui dit, vos parents sont au salon. Bien, j'y vais. Et il va au salon. Dit la grand-mère. Ils sont tous assis autour d'une table basse à lire. Bonsoir, il va vers eux. Sa grand-mère lui demande « Où étais-tu ?» Il lui dit « J'étais boire un verre. » Frédéric lui dit « Avec Carole. » Amélie dit « Ah, avec Carole ? C'est gentil de sa part. Et pourquoi ne nous l'a-t-elle pas dit? Et pourquoi n'est-elle pas venue nous voir? » Éric lui dit, « Parce qu'elle voulait que ça se passe comme ça, entre nous, pour faire connaissance. » Auguste fait « C'est vraiment gentil !» Eric va s'asseoir à côté de son frère dans un fauteuil et lui dit « Tu vas voir, toi, mouchard !» Frédéric hausse les épaules et lui dit « Ce n'est rien, tu as bien le droit de voir ta belle-mère. » Dans la nuit, Eric retrouve son frère dans sa chambre. Il se penche sur lui. Il est couché. Le bruit de la porte l'a réveillé. Eric lui dit « Tu vas me le payer, petit mouchard. Mais tu es peut-être jaloux. Moi jaloux ? Bien au contraire. Tu me laisses tranquille pendant que tu l'as. » Eric lui dit « Je vais peut-être, mais c'est toi que je veux. Tu es toujours, tu ne seras jamais remplacé. Tu es à moi. » Frédéric lui dit « Si tu me touches, je le dirai à Carole. Tu penses, elle s'en moque. Elle ne peut pas être jalouse d'un minus comme toi. » Les jours passent. Eric et Carole se voient une fois par semaine. Elle ne le reçoit jamais chez elle et ne veut pas que son mari le sache. Ils marchent dans les rues pendant des heures. Parlent peu. N'a pas d'amour pour lui, ni lui pour elle. C'est simplement physique. Puis, ils cherchent un endroit sombre pour s'unir. Leur union est toujours aussi bestiale, violente. Comme elle ne rentre pas trop tard, son mari ne lui demande rien. Les grands-parents d'Eric ne lui parlent pas, ne lui posent pas de questions. Mais il se doute qu'il y a quelque chose avec Carole. Il pense que c'était avec elle, mais n'en sont pas sûrs. Auguste n'est pas content du tout que Carole se comporte mal vis-à-vis de son fils. Il aimerait faire arrêter tout ça. Carole sait les liaison qu'il y a avec les frères. Elle les a entendus plus d'une fois et a vu certains gestes lorsqu'elle était en visite chez ses parents, mais ne dit rien. Un soir, qu'elle est en visite chez eux, elle est sortie du salon pour aller à la salle de bain. Elle entend les deux frères se battre dans leur chambre. Elle passe devant la chambre. Elle les entend parce que la porte est restée entrebâillée. Eric est sous son frère, qui est couché à terre. Il ne peut se relever. Carole voit qu'Eric, tout en maintenant Frédéric sous lui, a des gestes, des caresses qui expliquent son désir. Elle se retire. Deux garçons, trop occupés, occupé à se défendre et l'autre à assouvir ses plaisirs, n'ont pas fait attention à elle, ils ne l'ont pas vue. Lorsqu'elle voit Eric, un soir, alors qu'il marche, elle lui demande « Tu t'entends bien avec ton frère ?» Il lui dit un peu « Oui ?»« Oui ?» Elle lui dit « Il est gentil ton frère et beau garçon. » Il la regarde furieux. Elle lui dit « Ne fais pas de soucis. » Il lui dit « Tu vas pas chercher avec mon frère ?» Elle lui dit « Mais non !» Je te laisse ton frère. » Il est furieux. Il se dit qu'elle sait. Cela l'énerve. Il a un peu honte qu'elle sache et qu'elle le traite de pédé. Auguste s'énerve de voir que Carole fréquente Eric. Il se dit que c'est gênant d'en parler à Pierre, mais à Amélie. Il lui dit, il faut dire à Eric qu'il doit rentrer directement chez nous après les cours. Et il lui demande, pourquoi ? Pendant qu'il traîne dehors, il nous laisse tranquille. Auguste lui dit, peut-être, mais cela dépend avec qui il est. Lorsqu'Eric entre, Amélie est dans le couloir. Il ne faut plus traîner comme ça. Ton grand-père ne veut pas. Surtout, ne sors pas avec n'importe qui. Eric lui dit, je suis plus un enfant. Et puis, je vais chez un copain pour me faire aider pour mes cours. Elle lui dit, c'est bien ça, mais tu peux le faire venir ici pour réviser. Il ne peut pas. Sa mère est malade. Eric continue à voir Carole. Il en a besoin. Un jour, Pierre reçoit chez lui une lettre qui lui dit de mieux surveiller sa femme. Elle voit un peu trop souvent son fils. Pierre connaît le comportement de sa femme. Il n'est pas surpris par cette nouvelle. Il se dit « Je cherche après mon fils, cette garce. » Il a tout accepté d'elle. Et même participé à des choses. Mais ça non, pas son fils. Il met la lettre dans sa poche et décide de surveiller sa femme. Se cache et elle surveille à la sortie de son travail la nuit, le jour, pendant plusieurs jours. Rien de ce qu'il connaît. Et puis un soir, il voit son fils qui l'attend à la sortie de son travail. Il les voit ensemble, bras dessus. Leur intimité est criante. Pierre est furieux. Il ne peut le supporter. Arrête de les suivre et entre chez lui. Chez lui, il attend au salon en faisant les 100 pas. Il se dit que c'en est trop. Elle l'a suffisamment humilié comme ça. Il a tout accepté d'elle, même l'inacceptable. Maintenant, c'en est trop. Il n'en peut plus. Il ne pense qu'à se venger d'elle. Et son fils, que va-t-il en faire? Il ne peut pas supporter de se dire qu'il les aura constamment sous ses yeux. Non. Mais d'abord, sa femme. Il veut se venger de tout ce qu'elle lui a fait subir. Il est furieux.
Bonjour madame, bonjour.
Enfin, elle rentre.
Elle va le retrouver au salon. Il lui demande « Où étais-tu ?» Elle lui dit « J'ai marché, comme chaque soir. » Il lui dit « C'est faux. Tu étais avec quelqu'un. » Elle lui dit « Mais tu es jaloux, ma parole. » Il lui dit « Fais attention, Carole. Il y a des limites à ne pas franchir. »
Elle lève ses épaules et lui dit « Il y a des limites à quoi? À qui? Ça n'a aucun sens ?» Elle lui dit « Si, ça en a. On ne peut accepter certaines choses. Mais d'autres, non. » Elle va au bar.
Je sers un verre.
Un verre de scotch. Tu ne feras rien. Il n'y a rien de bien méchant là-dedans. Il va vers elle. Elle lui dit, tu en es sûr? Tu en es sûr que je tolérerai certaines choses? Elle lui dit, lesquelles? Elle lui dit, ce que tu fais? Elle lui dit, rien. Bois donc. Elle lui sert un verre. Bois donc. Il le prend et le boit. Il se dit que ça ne sert à rien de lui parler, qu'il faut agir. Lorsqu'elle renvoie Eric, elle lui dit « Fais attention, je crois que ton père sait pour nous deux. » Eric lui dit « Je m'en moque. Tu n'as pas peur de lui ? » ?»« Non, j'ai peur de personne et je le déteste. Et toi ?» Elle lui dit « Ne me fais pas peur. Je sais qu'il a trop besoin de moi. Je connais ses faiblesses. » Il l'a giflé en pleine rue et lui dit « Et les miennes, tu les connais ?» Elle lui dit « Oui, et fais attention à ne pas aller trop loin. » Moi, j'ai besoin de personne, même pas d'avoir un frère. Il est furieux et lui dit « Ça ne te regarde pas. » Elle lui dit « Alors, ne me traite pas comme ça. » Il n'a rien fait. Il aime tout de même. En tout cas, il aime son corps. Alors il lui dit, je te demande pardon. Elle lui répond, je te pardonne. Pierre est de plus en plus furieux et jaloux. Il boit de plus en plus. Chaque fois qu'il voit sa femme, il pense à l'humiliation qu'elle lui a faite. Cela le rend furieux. Il ne mange plus. Il tape du poing sur la table pendant le dîner et gifle sa femme pour un rien. Il n'a qu'une exception en tête. C'est celle de se venger, de la faire souffrir. Le soir, il la suit à la sortie de son travail. Il ne va plus chez ses parents parce qu'il se dit que s'il voit son fils, il l'étrangle. Il a l'impression que tout le monde se moque de lui et surtout elle. Un soir, il attend furieux. Il boit des verres en faisant les 100 pas au salon et ne vient plus avec des hommes de passage. Les jeux à trouver des hommes et les faire venir ici est fini depuis quelque temps. Alors il sait que lorsqu'elle entre en retard, c'est parce qu'elle cherche. Il savait que c'était parce qu'elle cherchait un compagnon et qu'elle l'amenait chez elle, chez lui. Mais maintenant, lorsqu'elle est en retard, c'est parce qu'elle voit son fils. Cela lui fait mal. Il les imagine ensemble, dans la rue, et se faisant des choses. Il se dit qu'ils doivent sûrement parler de lui et peut-être même se moquer de lui. Quelle honte! Et dire que tout le monde doit le savoir, même ses parents. Et il laisse faire. Il se moque que tout le monde sache qu'elle a des amants de passage. Mais qu'elle va avec son fils, ça non! C'est insupportable. Et que faire? Il est seul. Il pense que personne ne peut l'aider. L'alcool lui brouille l'esprit et le rend méchant. Les heures passent, passent. Enfin, il entend qu'elle rentre. Ce n'est pas plus tard que d'habitude. Il n'a plus la notion de l'heure. Puis ça l'agace. L'agacement d'attendre fait prendre le temps plus long.
Elle entre au salon. La pièce est juste éclairée de quelques lampes de chevet sur des tables basses. Porte un manteau violet et semble très belle. Lui est furieux, debout, la tête en feu. Il s'approche d'elle. Il lui demande « Où étais-tu ?» Elle lui dit « Je me suis promené. » Il lui dit « Je sais avec qui tu étais, garce !» Se penche vers elle. Elle sent son haleine. Elle lui dit « Eh bien, puisque tu le sais, pourquoi me le demandes-tu » Il lui dit « Tu n'es qu'une putain !» Il l'a giflé. Elle veut lui rendre sa gifle, mais furieux, lui rattrape le bras. 8 heures. Malgré son ivresse, il est très fort. « Lâche-moi ! Tu me fais mal !» Il lui crie. « Salope !» Tu croyais ? Que j'allais accepter ça. Lâche-moi. Mais je croyais que tu aimais ça. Lâche-moi, tu me fais mal. Il tord le bras. La force à se courber, à la renverse. Arrête! Arrête, idiot! Oui, je suis un idiot. Et tu vas voir. Il la fait tomber à terre. Il se plaque contre elle. Elle cherche à sortir de son emprise. Elle sent sur son corps son haleine. Ça la dégoûte. Elle lui dit « Lâche-moi, c'est stupide !» Il est essoufflé. « Tu vas voir, tu seras à moi, garce !» Une grande joie de l'avoir à sa merci. Ça fait des heures qu'il attend. Et ça, il veut lui montrer ce qu'il est, ce qu'il est. Un désir fou de lui faire du mal. Je vais te tuer, putain. Comme ça, tu seras à moi, rien qu'à moi. Elle lui dit « Laisse-moi ! Laisse-moi ! » Elle voit son visage qui lui fait peur. Il a ses mains autour du cou. Il suffit de serrer. Et c'est fini pour toi. Elle a peur. Elle sent ses mains qui commencent à la serrer. « Non !
Ne fais pas ça.
Plus il serre, plus je sens soulagé.
Il a chaud. Il voit tout tourner. L'émotion, la fatigue, la joie. Il transpire. Le souffle court. Enfin, il se venge. Tout d'un coup, le trou noir. Le trou noir. Il tombe à la renverse. Il est grimaçant, sans connaissance. Surprise, épeurée, essoufflée, elle reprend ses esprits. D'un geste, elle sort de l'emprise de pierre qui est tombée à la renverse. Ne cherche pas à savoir si Pierre est mort. Elle n'a qu'une idée en tête, chercher du secours. Vite! Elle va au téléphone. Fait le 18. Allô? Oui. Elle dit, je viens d'être agressée par mon mari. Venez vite. Elle lui donne l'adresse, puis elle raccroche. Retourne vers Pierre. Il est toujours inconscient. Elle sort du salon. Ferme la porte à clé. Et attend dans le couloir la police. Un quart d'heure plus tard, l'on sonne à la porte. Elle va y répondre. Et voit sur l'écran un policier en uniforme. Oui, police, je vous ouvre. Elle va ouvrir la porte. Elle va vers l'ascenseur. La porte de l'ascenseur s'ouvre, trois policiers sortent. Et vont vers elle. Elle les fait entrer dans son appartement et leur dit, il est au salon, sans connaissance. Elle les mène. Un policier, un beau blond, lui demande comment ça s'est passé. Tant qu'elle explique, les deux autres examinent Pierre. Une demi-heure plus tard, on a couché Pierre à l'infirmerie du poste de police. Carole a fait sa déposition. Pierre est toujours sans les connaissances. Carole est retournée chez elle et s'est couchée épuisée. Si un jour de congé, les domestiques ne sont pas là. Et personne ne le sait. Le lendemain matin, le commissaire entre dans son bureau.
C'est un homme grand, mince, châtain, petite moustache, très distingué. Il porte un costume gris. Son bureau est moderne, tout blanc. Il se met à son bureau. On frappe à la porte. Entrez. Entre un policier en uniforme.
Bonjour, monsieur.
Bonjour. Alors, quoi de neuf cette nuit ?
Le policier lui dit, la routine, des clodos ivres, un meurtre, quatre vols, un viol et une femme battue. Lui tend les dossiers. Merci. Et le policier le quitte. Le commissaire qui s'appelle Dupont-François, regarde les rapports. Routine, toujours la routine. Les prévenus sont dans des cellules où il les interrogera un à un. La plupart du temps, elles iront au dépôt. Ce travail est un travail du matin. Lorsqu'il regarde le dossier de Pierre, pas plus horrible que les autres, et peut-être moins, après l'assassinat d'une femme par un fou furieux qui allait opérer du corps ouvert dans une cave à coups de scie et de burin, la pauvre a crié pendant 4 heures avant que les gens de l'immeuble appellent la police. Elle est arrivée, bien entendu, trop tard, dans une mare de sang, corps déchiqueté. Le tueur, plein de sang, est homme du monde. A dit à la police qu'il était médecin depuis 50 ans et qu'il exerçait et qu'il était spécialisé dans l'opération de la greffe du corps. Alors cette histoire d'un homme qui essaye d'étrangler sa femme, ce n'est pas grand-chose. Mais il y a quelque chose qui chiffonne. C'est le nom de cette personne, Bosch. Cela lui dit quelque chose. Il se dit que, vu le quartier où la personne habite, on ne sait jamais. Il ne faut pas faire d'impair. La justice, c'est pour tout le monde, mais il faut prendre des gants pour certains. Et puis, si c'est une personnalité, on essaiera de voir avec la femme pour étouffer l'affaire. Bon, donc, il se dit qu'il vaut peut-être mieux regarder sur son ordinateur. Il le met en route. Et regarde en mettant le nom. Il a toutes les informations de la personne. Nom, âge, adresse, sécurité sociale, métier, diplôme. S'il n'a pas eu des ennuis avec la police, même avec la police des mineurs, parenté, dépenses, crédit, dette, mort, loisirs, ce qu'il achète, etc. Et même leurs relations. C'est bien l'ordinateur, on peut tout savoir. Même avoir les conversations téléphoniques qui sont enregistrées dans une centrale. Donc, il regarde tout ça. Et voit que Bosch, les Bosch sont associés à Franc-Blanc et qui sont en affaire. Ils ont des immeubles construits et gérés par Franc-Blanc. Le commissaire se dit que l'homme doit être important. Il regarde la femme et voit Riquin, là aussi très important. Donc, il doit prendre des gants. Ah là là. Prend son téléphone, fait un numéro et dit « Amenez-moi Bosch, l'homme de cette nuit qui a essayé d'étrangler sa femme. Bien, il est à l'infirmerie, allez le chercher. » Et il raccroche. En attendant qu'il vienne, il étudie le dossier. Il se dit « Scène de jalousie, ivresse. » Si sa femme ne demande pas de réparation, ça pourra aller. Oui, ça pourra aller. On frappe à la porte. Entrez. Entre deux policiers en tenue qui amènent Pierre. Le commissaire dit, approchez-vous, monsieur, et venez vous asseoir. Les policiers l'amène et le fait asseoir devant le bureau, sur une chaise. Le commissaire lui dit, « Vous savez pourquoi vous êtes ici ?» Pierre lui dit, « Oui, j'ai voulu tuer ma femme. » Le commissaire lui dit, « Vous étiez ivre, un moment de folie, ça arrive à tout le monde. » On dit ça à des gens importants, mais aux autres, on leur dit « Fumier, t'as voulu tuer ta femme. Tu vas voir, salaud !» Pierre lui dit, plein de dignité, « Non, j'ai vraiment voulu tuer ma femme, parce qu'elle me trompait. » Commissaire gêné, « Vous en êtes sûr ?»« Oui, et avec mon fils. » Commissaire soupire et se dit, que ça se complique. Vous en êtes sûr? Oui. Le commissaire ne sait que faire de ce coupable. Lui veut payer ce qu'il a fait. Mais si la famille ne veut pas, qui paye? Le commissaire serait dans de beaux draps, il dit à Pierre. Vous risquez gros, un procès retentissant, le déshonneur pour vous et votre famille, peut-être la ruine et la prison après le procès. Tout ça parce que vous avez voulu, dans un instant de folie, tuer votre femme. Et pourquoi? Parce qu'elle vous trompait avec votre propre fils. Pierre lui dit, ça ne fait... Ça me fait des circonstances atténuantes. Le commissaire lui dit, avec les avocats que nous avons, ils sont tous de gauche. Les droits de l'homme et tout. Pour vous, un homme riche est obligatoirement un fasciste, nazi, etc. Et n'aura pas le droit à la justice, aux droits de l'homme. Donc vous êtes perdu. Et en plus d'être riche, c'est une femme que vous avez voulu tuer. Les droits, défense de la femme, égalité des sexes, toute cette salade. Hein? Vous voulez vous rendre deux fois plus coupable et faire de vous un horrible macho aux yeux de ces gens. Votre femme, elle doit avoir un amant au nom des libertés et qu'elle n'appartienne surtout pas à son mari. Son amant passe encore. Pierre lui dit, mais son amant est son fils et mon fils. La liberté d'aimer. Et si c'était son fils à elle, j'aurais dit que cette personne est la chair de sa chair, donc pas de péché sur cette personne, entre gens de même chair. Mais si c'était vous, vous auriez trompé votre femme, là, ça aurait été autre chose. Mais si ça aurait été avec une personne apparentée à vous, ça aurait été un crime. Pierre lui dit, donc, je suis coupable. Eh bien, tant pis, je vais payer. Comme Jean lui dit, comme vous voudrez. Avant de vous faire signer votre déposition, il faut que vous réfléchissiez bien un moment. Vous allez réfléchir dans votre cellule. Il dit aux agents, ramenez-le dans sa cellule. Et on sort du bureau. Le commissaire se dit qu'il faut agir avec diplomatie et marcher à petits pas, surtout pas de vagues. Il décide, c'est de prévenir le père de cet homme. C'est lui qui doit être le chef de famille. Peut-être lui fera-t-il pour reprendre raison. Regarde sur son ordinateur le numéro de téléphone d'Auguste. Puis, prend son téléphone, fait le numéro. Allô? Puis-je parler à M. Borges, s'il vous plaît? C'est personnel et très urgent. Pour les enquêtes, les policiers sont toujours pressés. Mais après, pour le jugement, là, c'est l'incapacité d'aller trop vite. Nous vous avons présenté, dans la série L'écran radiophonique, un scénario original de Julien Jean-Pierre, La spirale de verre. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.